Lucien Carlès, bonjour.
Salut Caroline.
Comment vas-tu?
Hey, ça va bien, ça va bien. Je m'en sors relativement bien ici chez nous, là.
Bon, la saison des conférences scientifiques est passée. Bon, enfin,
oui,
est à l'eau.
Ben, enfin, est à l'eau, là. C'est terminé, mais c'est correct. On va travailler plus fort. Par chance, on a quand même beaucoup de travail, surtout de notre côté d'astrophysicien. C'est quand même assez facile de travailler de la maison, là, en ligne et compagnie. Les choses continuent à avancer, la science continue à se faire. C'est pas la même chance que d'autres collègues qui travaillent en laboratoire, par exemple, qui pour eux, c'est complètement fini.
Oui, là, clairement. En tout cas, ce matin, et ça va nous faire peut-être prendre conscience à quel point on est petits, nous, les humains, sur la Terre, parce qu'on va parler de l'origine des trous noirs supermassifs.
Oui, exactement. Donc, on s'en va justement, là, on sort complètement de notre planète, de notre temps, puis on va se rendre compte à quel point on est petit, puis l'univers, il est vieux, et tellement vieux que ce qui arrive aujourd'hui, là, ça va être assez... ça peut être oublié.
Oui, ça va être un grain de sable dans l'histoire de l'humanité, peut-être.
Exactement, puis encore plus dans l'histoire de l'univers.
Oui,
donc,
encore.
Oui, je vous parle des trous noirs supermassifs. D'abord, j'aime toujours le rappeler quand je parle de trous noirs, là, qu'il existe deux types de trous noirs, parce que les gens les mélangent beaucoup, c'est pas très clair qu'est-ce que c'est. Le premier type de trou noir, c'est ce qu'on appelle les trous noirs stellaires, ce qui veut dire des trous noirs qui ressemblent à une étoile. C'est des trous noirs qui ont la masse à peu près d'une ou de quelques étoiles, puis c'est ce qui reste après la mort d'une étoile. Donc, quand une étoile arrive à la fin de leur vie, surtout une massive, elle explose, eh bien, ce qui reste dans son cœur, c'est un trou noir stellaire. Puis ça, c'est vraiment tout petit, ça fait 6 km de rayon, rendez-vous compte. C'est un truc genre astronomique, puis ça fait juste 6 km. C'est vraiment minuscule, ce qui les rend très difficiles, évidemment, à voir.
Mais c'est ce que j'allais dire, ça doit être presque invisible pour les télescopes ou
oui, en fait, on peut juste les observer quelques fois par effet secondaire, donc par l'effet qu'ils ont sur un autre corps brillant. À eux-mêmes, ils sont tellement peu brillants et tellement... Enfin, ils sont complètement noirs et ils sont tellement petits qu'ils sont impossibles à voir.
OK.
L'autre type de trou noir, le trou noir qu'on connaît, puis ceux-là, on les connaît vraiment mieux, c'est les trous noirs supermassifs. Donc, quand je dis supermassifs, on parle de millions, voire des milliards de fois plus gros que les autres trous noirs. Donc, c'est vraiment des monstres énormes. Et ces trous noirs-là, il y en aurait un au cœur de chaque galaxie. Donc, ils seraient vraiment comme l'espèce de point d'ancrage, là, où, en plein milieu de la galaxie. Il y en aurait un dans chacune des galaxies. Et celui-là, on les connaît très bien parce qu'il brille. Évidemment, c'est un trou noir, il ne brille pas par lui-même, mais ce qui brille, c'est tout ce qu'il y a autour de lui est tellement réchauffé, tellement accéléré, parce que tout est en train de tomber à l'intérieur, que tout ce gaz-là chauffe et devient très, très chaud, et donc il devient brillant. Et c'est comme ça qu'on le connaît, qu'on réussit à étudier ces trous noirs-là. C'est à cause que son voisinage est tellement affecté, tellement brillant, qu'on réussit à le voir.
D'accord.
Donc, on a, comme je te disais, deux types de trous noirs, donc des tout petits ou des géants. Puis, une question déjà juste à voir ça, c'est de dire pourquoi? Pourquoi deux types? Pourquoi deux types aussi opposés? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas on pourrait dire comme ça, pourquoi pas un spectre de trous noirs? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des tout petits, des moyens, des gros, des très gros?
Mais oui, OK. Et la question me venait même pas, Christian, parce que ça me paraissait, il y a des petits, il y a des grands, mais il n'y a même pas d'entre-deux, là.
Ben c'est ça, exactement.
Oui, clairement,
il y a une espèce d'énorme trou dans lequel il n'existait pas. Il y a une population de très petits et une population de géants, mais c'est la même chose physiquement, là. Donc, c'est quand même assez étonnant qu'il n'y ait pas d'entre-deux. On se demande comment ça se peut, qu'est-ce qui se passe. Étant donné que c'est la même chose et que l'origine des trous noirs, on sait que c'est la mort des étoiles, cette question-là revient à demander comment les trous noirs supermassifs, donc les plus gros, sont devenus aussi gros. Parce qu'ils n'ont pas le choix d'avoir commencé comme un petit trou noir. Et donc, on demande, OK, ils ont commencé petit, ils ont grossi. D'abord, comment ça se fait qu'ils ont grossi?
Ils se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent de planètes mortes?
Ben c'est ça, là. Comment sont devenus, sont passés vraiment de trucs tout petits, là, de 1, 2 étoiles à l'équivalent de 800 millions, 1 milliard, 100 milliards d'étoiles. Donc, ça a vraiment grossi incroyablement beaucoup. Comment c'est arrivé, ça? Mais c'est intéressant, surtout que c'est arrivé assez rapidement. Tu sais, Caroline, que quand on regarde au télescope, un des trucs secrets que les astronomes ont, puis ça, au début, c'était un des avantages, mais on a réussi à l'inverser et à le rendre un avantage, c'est que plus on regarde loin dans l'espace, plus, en fait, on regarde tôt dans l'espace. Donc, c'est comme regarder dans un voyage dans le temps quand on regarde loin. Oui. Si on voyage, on regarde de plus en plus loin, ce qu'on est capable de voir est arrivé dans le passé. Donc, en utilisant ce truc-là, donc plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé, on se rend compte que ces trous noirs supermassifs-là, ils existaient déjà 800 millions d'années après le Big Bang. Puis ça, c'est très jeune. Là. Si on parle de l'enfance de l'univers, donc rappelez-vous, notre univers en ce moment, il a 14,3 milliards d'années. Donc, on parle, là, si on compare à une vie humaine, mettons qu'on serait rendu à la fin de la vie, là, on parle de l'enfance, début de l'adolescence.
OK.
Donc, très rapidement dans la vie de l'univers, il s'est formé ces trous noirs supermassifs-là. Donc, ils existaient très tôt dans l'univers. Et là, la question, c'est comment ont-ils pu grossir si vite?
Ouais.
Comment les trous noirs sont passés de les premiers trous noirs qui sont formés à ces géants en si peu de temps? Parce que on sait que les trous noirs grossissent. Les trous noirs grossissent en mangeant du gaz autour d'eux. Donc, le gaz tombe et ça les rend de plus en plus gros. Mais le problème, c'est qu'un trou noir, plus il est gros, plus il peut manger, plus il peut grossir rapidement. C'est une question de gravité, évidemment.
Mm-hmm.
Plus on est massif, plus on peut attirer le gaz et grossir encore plus. À l'inverse, ça veut dire qu'un petit trou noir grossit très lentement.
Ouais.
Donc, quand on est tout petit, ça prend beaucoup de temps.
C'est logique.
Et donc là, on arrive à l'impasse du problème. Comment les trous noirs ont réussi à passer rapidement de petit à gros si les petits ne grossissent pas, ou presque pas? Donc, vous voyez,
je te renvoie la question. Là,
c'est ça, on se rend compte. Là, puis ça, c'est une question fondamentale qu'on se pose depuis déjà pas loin d'une vingtaine d'années. Puis c'est important parce que c'est au cœur de notre compréhension de l'univers et de sa formation. Comment ça se fait? Comment ces trous noirs-là ont pu apparaître si rapidement? Notre compréhension, c'est que le petit ne grossisse presque pas. Eh bien, l'équipe de l'étude que je vous ai parlé aujourd'hui, c'est une équipe italienne. Bocco et Lapi s'appellent les chercheurs. Ils proposent un scénario vraiment très intéressant pour l'expliquer. Puis j'ai lu leur article et j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée, une bonne approche. Dans cet univers jeune-là, donc rappelez-vous, on parle d'un univers qui est quand même assez jeune.
Oui.
Cet univers-là est très chaotique. Et il se forme beaucoup d'étoiles dans cet univers-là. Dans les galaxies, là, il y a une tonne d'étoiles qui se forment. Là. C'est un peu comme un popcorn. Là. Ça pète dans tous les sens.
Ouais.
Et qui dit beaucoup d'étoiles, dit beaucoup de petits trous noirs qui se forment. Parce que là, ça va.
Ça va, c'est clair.
Il se forme beaucoup d'étoiles. Les étoiles, quand elles meurent, elles deviennent des trous noirs. Eh bien, ce qui est intéressant, ce qu'ils ont montré mathématiquement, c'est que le chaos dans lequel baignent ces trous noirs-là au début, il y a un drôle d'effet qu'on ne s'attendait pas sur les trous noirs. Ça serait en sorte que les trous noirs, ils ont tendance à se rapprocher du centre, à se déplacer, au lieu de rester proche de l'endroit où est-ce qu'ils se sont formés dans la galaxie. Donc, normalement, quand une étoile meurt et devient un trou noir, bien, le trou noir, il continue la trajectoire de l'étoile. Donc, il continue à tourner à la même vitesse que l'étoile tournait. Il continue comme ça.
L'étoile a imposé son rythme et sa direction, disons, au trou noir.
Exactement. Donc, un exemple, c'est par exemple, notre étoile fait le tour de notre galaxie si je me rappelle bien, c'est quelques millions d'années. Eh bien, si tout d'un coup, elle devenait un trou noir, ben elle continuerait à faire ce trajet-là. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle le trou noir changerait en ce moment.
C'est pas stable, les trous noirs, donc.
Mais en fait, c'est ça l'affaire. C'est que c'est stable en ce moment, les trous noirs.
Okay.
Et on pense que dans l'univers plus jeune et chaotique, il serait moins stable. Ça rendrait seulement les trous noirs seraient beaucoup moins stables et ce changement de stabilité ferait qu'ils tomberaient comme vers le centre de la galaxie peu à peu. En tombant vers le centre de la galaxie, ils fusionneraient les uns avec les autres et ils finiraient par tomber jusqu'au centre, ce qui fusionnerait avec le plus gros trou noir.
OK.
Ce qui fait que puis c'est là le cœur de la question, les trous noirs supermassifs n'ont pas grossi en mangeant du gaz comme les trous noirs grossissent de nos jours. Ils ont grossi en mangeant d'autres trous noirs, en faisant des fusions de trous noirs très rapidement au début de l'univers. Donc ça s'est passé dans un temps très court, il s'est formé beaucoup d'étoiles, beaucoup de trous noirs, et ils sont tous tombés vers le centre. Et là, on se retrouverait avec une espèce de... C'est ce qu'on appelle le seed en anglais, donc la... La graine.
La graine, la semence.
Exactement. Du trou noir supermassif, il serait formé en fusionnant beaucoup, beaucoup de trous noirs très rapidement au début de l'histoire de l'univers. Et c'est comme ça qu'un trou noir réussirait à grossir beaucoup, beaucoup. Puis, ça expliquerait aussi pourquoi il y a deux catégories au lieu d'un continuum. Il y aurait deux catégories parce que les petits trous noirs grandissent très rapidement, donc ils ne deviennent jamais moyens. Et le seul moyen qui s'est formé au début de la galaxie, ben, il a continué à manger tout le monde autour de lui, donc il est rapidement devenu très gros.
Ah, les coquins.
Et donc, les coquins, ils feront en sorte exactement qu'ils se font pour un espèce de trou. Il n'y a pas de moyen, parce que les moyens ne peuvent pas se former. Le gros, il grossit très rapidement, et tous les autres petits ne sont pas capables de grossir. Et donc, ça expliquerait cette espèce de dichotomie ouais. qu'on trouve entre les deux, grâce au bordel galactique. Et c'est comme ça qu'ils se formeraient. Un des points les plus intéressants, c'est qu'on se demande souvent, et c'est beau, c'est une théorie, mais est-ce que c'est vérifiable? Rappelez-vous, en science, là, c'est un critère fondamental. Donc, on a beau sortir toutes les théories qu'on veut, s'il n'y a pas de moyen de vérifier notre théorie ne vaut pas grand-chose.
Ouais.
Donc, comment vérifier tout ça?
C'est votre job,
ça semble très loin de nous. Comment on va venir vérifier tout ça? Ben, on a quand même une piste de solution. Évidemment, pas tout de suite, mais beaucoup et l'API nous disent qu'avec la prochaine génération de détecteurs d'ondes gravitationnelles, ma première chronique à la radio a été là-dessus sur les ondes gravitationnelles. Vous vous rappelez
tellement, c'était une grosse découverte, là, c'était majeur. On s'est dit, faut absolument en parler, puis t'étais là.
Exactement. Donc, c'était la première fois que je faisais une chronique. Ça fait peut-être 3-4 ans de ça. Mm-hmm. Et finalement, les ondes gravitationnelles, rappelez-vous, c'est cette espèce de vague dans l'espace-temps qui se forme quand deux trous noirs fusionnent. Donc ça, on sait que ça existe et on est capable d'en détecter. Mais là, on dit, si leur théorie est vraie, ça impliquerait que au tout début de l'univers, il y aurait une espèce d'explosion de plein de petites vagues comme ceci parce que les trous noirs, ils fusionneraient tous les uns avec les autres. Donc ça ferait une espèce de petit pop-corn là, qui ferait un espèce de roulement de tambour du point de vue de la fusion. Là. Donc, ça serait sans arrêt plein de petites fusions qui arriveraient un peu partout parce que, justement, le trou noir est en train de grossir petit à petit en mangeant plein d'autres trous noirs. Donc, est-ce que c'est possible de détecter ça? Impossible en ce moment, mais avec la prochaine génération de détecteurs qui s'en viendra à peu près en 2030-2040, bien, eux autres seraient probablement capables de détecter cette espèce de petite de micro-vague, de tonnes de petites vagues dans l'espace-temps qui seraient dues à la fusion des trous noirs. Donc, on espère peut-être pouvoir démontrer que cette théorie-là serait peut-être vraie, mais aussi peut-être fausse, on sait jamais, mais c'est vraiment une belle avenue pour un problème qui est quand même assez important depuis longtemps, comprendre d'où viennent ces trous noirs supermassifs-là.
Et en fait, en même temps, ce qui est vraiment fort intéressant, c'est qu'on voit que si on place notre crise actuelle sur une échelle de temps, comme tu le disais en début de chronique, c'est vraiment rien parce qu'on a plein d'objectifs à découvrir dans l'univers. Vous manquerez pas de job, vous autres, à long terme, en tout cas, ça,
non,
c'est certain.
Non, c'est ça. Il reste toujours des choses à faire en astronomie. Puis justement, c'est le fun parce que ça nous fait penser à d'autres choses. Ça nous fait sortir un petit peu de notre monde qui est un peu difficile en ce moment et se rendre compte que des événements catastrophiques, il y en a plein dans l'univers, puis vraiment pire qu'une grosse grippe. Et l'univers s'est remis de cas bien pires. Là, je pourrais vous parler de l'extinction, par exemple, des dinosaures. on s'en remet tout le temps de ces histoires-là. Étonnamment, la vie est très forte. Hein? La vie, c'est pas mal ce qu'il y a de plus fort en ce moment sur l'univers. On finit toujours par trouver une manière de passer à autre chose.
Et sur ces belles paroles et cette belle conclusion, Christian, je te remercie. On manquera pas de chronique. Si on pourrait se faire une chronique sur l'extinction des dinosaures ou éventuellement.
Ça serait très intéressant. Ça pourrait être difficile. C'est mon deuxième sujet comme ça, là, que l'astronomie et les dinosaures, c'est mes deux grandes passions.
Oui, c'est pas tout à fait dans. Oui, bon, ben écoute, on s'en reparle. Merci infiniment, Christian. Tiens, bon courage.